www.orléans.radiocampus.org.
Faire de la radio dans sa cuisine, pas banal.
Radio Campus 88.3.
Et pour l'auditeur aussi, cela change des comportements. Désormais, on peut se faire une radio à la carte.
Radio Campus Orléans 88.3.
Radio Campus.
Des émissions que l'on peut emporter partout avec soi, n'importe quand.
www.orléans.radiocampus.org.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et c'est maintenant l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et j'ai avec moi, comme d'habitude, ma chère équipe, à qui je vais dire bonjour. Gob, bonjour.
Bonjour, je salue toute la cinéphilie orléanaise et toute l'équipe que je suis ravi de retrouver chaque fois que je le peux.
Bonjour Claude.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Arnaud.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Vincent.
Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous.
Bon, ça me fait plaisir de vous voir parce que ça faisait quand même 3 semaines qu'on n'avait pas fait d'émission en live. Ça fait plaisir de vous voir. Et donc, comme d'habitude, je vais faire juste une petite introduction avant de commencer les chroniques de films avec une petite actualité. Un petit rappel à Orléans, donc il y a un concours de court-métrage qui est organisé par le Cinéma des Carmes qui s'appelle les Trampolines du cinéma, qui est donc proposé aux 15-25 ans. Vous avez donc jusqu'au 13 juin. Oula, attendez, parce que là j'ai la fiche de 2025, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout, ça ne doit pas être le 13 juin, donc Eh bien, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, vous pouvez envoyer vos films avant le 27 mai 2026. C'est ouvert donc aux clips, aux documentaires, aux fictions, à l'expérimental. Enfin, voilà, tout type de courts-métrages de tous les genres. Et la projection des films est organisée au Cinéma des Carmes le 19 juin. Voilà, et toutes les informations sont sur le site internet du Cinéma des Carmes, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à proposer vos films.
Et même si vous n'êtes pas de la région Centre, vous pouvez envoyer vos films.
Oui, merci de le préciser, effectivement, Claude. Claude, d'ailleurs, es-tu encore dans le jury cette année ?
Non, et je pense
que...
pas cette année. J'ai pas le temps.
Oh, pas de soucis, c'était juste savoir voilà, si cette année tu y participais.
Non, j'en ai pas parlé, mais si on me le propose, j'irai pas. Pas cette année.
Pas de soucis. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour les moins de 25 ans, à proposer vos courts-métrages. On commence toujours quelque part. Et la deuxième information, qui est plutôt connue au niveau international, car voilà, comme chaque année, c'est la fameuse édition du Festival de Cannes, qui est prévue du 12 au 23 mai. Donc très bientôt. Et... j'ai regardé un petit peu la sélection officielle. J'ai encore un peu un coup de gueule. Hein, décidément, c'est chaque année. Donc, la sélection officielle, il y a différentes catégories. Et celle qui est la plus représentée, la plus mise en avant, c'est la section officielle. Celle dont tous les films, on en parle, qui ont une sortie très souvent en salle. Et il y a 21 films, 21 réalisateurs, réalisatrices. Et donnez-moi votre estimation du nombre de films réalisés par des femmes.
3.
Un peu plus quand même.
Ah non, toi. J'espère que ce sera pas prémonitoire. Non, pas 3, mais très proche.
4.
J'étais pas loin.
5.
Ah oui, d'accord.
Sur les 21 films, 5 films sont réalisés par des femmes. Ouais, je suis un peu agacée, surtout quand on voit l'affiche du festival qui est l'image de extrait du film de Thelma et Louise. Donc un film qui est considéré comme féministe, réalisé par Ridley Scott. Et donc c'est un peu agaçant de voir cette image mise en avant de films, de festival qui se veut progressiste et féministe, alors que ça ne sélectionne que 5 femmes à la sélection officielle. Je vais les citer.
Il y a un chiffre que je voudrais savoir.
Oui.
C'est sur le nombre de réalisateurs, combien il y a d'hommes et de femmes.
C'est-à-dire
dans le monde.
Dans le monde.
Non mais là, si tu veux qu'on en parle, ça va être un petit peu long. Mais disons qu'il y a toute une toute une étude là-dessus depuis assez longtemps. Le fait que dans les écoles de cinéma, il y a moitié homme, moitié femme, c'est assez équilibré pendant les études. Et bah, bizarrement, lorsque les réalisateurs et réalisatrices commencent leur vie professionnelle dans la réalisation de films, c'est souvent les hommes qui arrivent à percer et pas les femmes. Donc il y a différentes suppositions entre le fait que bah, les femmes parfois mettent leur carrière professionnelle de côté pour avoir des enfants, pour les élever. Aussi parce que les sociétés de production sont encore réticentes à vouloir accompagner des femmes. Voilà, il y a pas mal de points, de paramètres qui font que les femmes encore aujourd'hui ne sont pas assez soutenues, pas assez visibles, et ça n'aide pas en fait sur les sélections de ce type de festival d'avoir aussi peu de femmes, parce qu'il y a quand même des femmes qui réalisent. On est quand même dans une sélection internationale, donc il y a des femmes. Et,
on retrouve les mêmes chiffres à la quinzaine des réalisateurs.
Quasiment. La quinzaine, effectivement, il y a plus de femmes, mais dans les autres catégories comme l'acide, il y a quasi tout le temps, très peu de femmes. Mais c'est la sélection officielle quand même qui est mise en avant. C'est quand même c'est celle qui
attire les feux des projecteurs.
Oui, les films sont distribués en salle.
Et ça se retrouve à Venise, ça se retrouve à Berlin.
Oh là, tu m'en demandes beaucoup. Mais moi, sur les dernières études que j'avais pu voir, oui, effectivement, ça se retrouve partout. Ça se retrouve partout. Mais toi, le Festival de Cannes, qui est quand même... qui a cette renommée internationale et cette affiche de Thelma et Louise, enfin, juste, pas, je trouve que c'est dommage. Et chaque année, on va en diminuant. L'année dernière, c'était 7 femmes. Cette année, c'est 5. Du coup, Gob, quand tu me dis 3, tu vas me faire pleurer. Mais je vais quand même les citer rapidement. Donc, il y a Charline Bourgeois-Taquet pour La vie d'une femme, Valeska Griesbach pour Das Getraumt Abenteuer, pardon pour mon allemand, Jeanne Herry pour Garance, Marie Kreutzer avec Gentle Monster, mon anglais n'est pas non plus très bien, Léa Missius avec Histoire de la nuit. Voilà, un peu, bon, c'est des réalisatrices que je ne connais pas du tout, donc j'ai hâte de découvrir leur travail, mais je vais quand même citer les autres films, enfin certains dont j'attends aussi beaucoup. Il y a le dernier Pedro Almodovar, il va y avoir le dernier Lucas Dont, Asghar Farhadi, il y a le film aussi de James Gray, de Arthur Harari, on en parlait, de Koreeda est sélectionné, il y a Emmanuel Maher, Laszlo Nemes aussi, dont on a vu il n'y a pas longtemps le film Orphelin. Là, donc, c'est son dernier film, Moulin, qui est sélectionné à Cannes. Voilà, et d'autres films, d'autres réalisateurs que vous pouvez donc découvrir dans la sélection officielle.
Et dernière... notamment notre ami russe.
Allez, Alexandre Zviagintsev, qui est un des meilleurs amis de Claude.
Et pour le film Le Minotaure.
Oui, tout à fait. J'ai pas osé me lancer dans la... Mais ben, merci. Donc voilà, il y a aussi ce réalisateur russe qui est effectivement sélectionné. Et je voulais juste, dernière chose, quand même dire, parce qu'à Orléans, il y a des sociétés de production, et notamment la société Alter Ego Productions, qui a produit 2 films qui sont sélectionnés à Cannes, à la quinzaine des cinéastes. C'est le film Gabin de Maxence Voiseux. Et à la programmation Acide, c'est le film Virage de Céline Carré-Droit et Aline Suter, je ne sais plus comment on prononce. Donc voilà, juste aussi une petite mise en avant de nos productions locales. On est très fiers voilà, de les voir aller jusqu'à Cannes. Voilà, merci pour donc, cette introduction. Vous aviez peut-être des choses à rajouter ?
Non.
Eh bien, nous allons pouvoir commencer les chroniques des films qu'on a pu voir dernièrement. Et je peux laisser la parole. Écoute, comme on en a parlé il y a 3 semaines, je ne sais pas s'il était encore à l'affiche, mais Gob, tu l'as vu, et c'est Les rayons et les ombres. Donc Arnaud et Vincent l'ont aussi vu, si tu veux nous en parler.
Bah écoute, je ne vais pas rajouter trop de choses par rapport à ce que vous aviez dit il y a 3 semaines. Vous aviez dit énormément de bien du film. C'est difficile de ne pas en dire du bien, effectivement. Giannoli, c'est un réalisateur extrêmement intelligent, cultivé, ça se voit au film. C'est un très très habile mélange de réalisme et de vérité historique et de romanesque. C'est porté par des acteurs absolument formidables. Dujardin est impérial, vraiment. La jeune actrice, là, je me rappelle plus son nom.
C'est la fille de Léo Carax.
Oui, la fille de Léo Carax, ouais, qui est très très bien. Elle aussi. Voilà, c'est vrai que le film est très long, mais comme vous le disiez la dernière fois, c'est vrai que l'histoire est tellement dense et riche qu'effectivement on voit pas le temps passer. C'est très élégant. Il y a une réflexion de fond sur comment on passe d'une volonté de paix et d'harmonie entre les peuples à la collaboration la plus épouvantable. Tout ça est... Et puis c'est vrai que c'est rare dans le cinéma français d'avoir un film qui nous montre effectivement la collaboration du côté finalement des méchants, voilà, qui ne l'ont pas toujours été. D'où l'ambiguïté et aussi la complexité de ce film. Voilà, moi je pense que ça sera un des films français qu'on retrouvera dans nos classements de fin d'année. Et c'est quand même...
C'est demi-saison déjà peut-être.
Oui, ou demi-saison. Ouais. Mais je pense que c'est un grand film. Voilà.
Okay. Eh bien, merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, Arnaud Vincent?
Comme tu le disais, mais c'est une façon de paraphraser que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et voilà, donc...
Eh bien, vous allez garder la parole. Ce que je vous propose de... Oui, Claude.
C'est un ami qui me faisait remarquer, très juste ce qu'il disait. Il dit la tuberculose avec laquelle il vit, il ne veut pas la voir, il brûle la chandelle par les deux bouts, et il ne voit pas la tuberculose comme il n'a pas vu le nazisme arriver.
C'est semblable, oui.
Oui, tout à fait. Et c'est encore d'actualité.
On peut rester sur l'enfer. Si on parle de Wedding Nightmare, ça parle un peu d'enfer. Ça va.
Allez.
Quelque part, un enfer en salle, et puis un... Non, c'est pas vrai. C'était pas le pire des trucs qu'on a vu. Tu m'en parles.
C'est une suite.
Oui, c'est une suite directe.
Suite directe, effectivement, ça embraye.
Ça embraye directement sur le premier, c'est ça.
Oui, c'est tout à fait.
Sorti en 2019, quand même. Qui s'est passé
Oui, effectivement. Donc, on va peut-être rafraîchir un peu la mémoire des auditeurs. À savoir que donc, nous avons notre protagoniste qui va se marier avec quelqu'un de la haute société. Cette haute société, n'est-ce pas, se livre à des jeux. Et entre autres, il y a un jeu avant le mariage. Une fois que le mariage est fait pour la soirée, le jeu qui sort du lot, qui est choisi, c'est le jeu de cache-cache. Mais bon, sauf qu'il s'agit d'un vrai jeu de massacre. Duquel réchappe notre héroïne en ayant fait le ménage derrière elle.
De manière inattendue, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle survive à la nuit, en fait. Et,
c'était ça la condition, effectivement. Voilà,
si elle survivait à la nuit, en fait, si l'aube arrivait, elle pouvait s'en sortir.
Épargnée, graciée. Enfin.
Voilà.
Je continue sur le deuxième.
Si tu veux, oui, bien sûr. Oui.
Alors, sur le deuxième, le jeu en question, avec la famille en question ayant échoué, il y a une espèce de prix, en fait, qui se partage de façon mondiale entre différentes familles qui dirigent le monde. Mmh. Comme l'autre famille a échoué, la chasse est réouverte. Et notre personnage principal est de nouveau
confronté
au mal, accompagné de sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des années. Bon, après le reste, c'est un survivor.
C'est un peu attendu.
Oui, voilà, qui est sans surprise, hein, quasiment, on pourrait dire, à part quelques blagues par moment qui peuvent faire mouche. L'ensemble est relativement passable.
C'est un film d'horreur drôle, donc on rigole quand même un peu. Il y a des seconds rôles, des apparitions un peu inattendues. Il y a Sarah Michelle Gellar, il y a David Cronenberg qui joue un personnage aussi, même très peu de temps. Et puis on a aussi Elijah Wood, donc quand même, qui font des petites apparitions dans le film. Un peu plus longtemps pour
elle. C'est en fait finalement presque le seul intérêt.
C'est le seul intérêt du film, c'est de voir le casting qui est un petit peu presque 3 étoiles en fait, avec des célébrités, on va dire, un peu inattendues dans ce genre de production. Ils ont dû accepter de faire un petit caméo, une petite apparition pour le côté fun. Après, le film en tant que tel, il est assez vite oubliable, il n'y a rien d'extraordinaire à mémoriser. On ne s'ennuie pas non plus, mais ce n'est pas non plus extraordinaire, quoi. Voilà,
pour faire très simple. Je voulais juste dire un petit mot, parce que je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas, mais. Sur les deux réalisateurs, qui sont quand même le duo qui a enterré définitivement la franchise Scream. Ils ont fait pas les deux derniers, mais les deux précédents. Ouais. Et franchement, moi j'étais atterré devant leurs deux Scream, qui est quand même une saga chère à mon petit cœur d'amateur d'horreur. Donc voilà, je leur lance.
C'est vrai que c'était mauvais.
je leur lance à travers le micro une nouvelle méchante pensée par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont fait.
Oui.
À moi et à beaucoup d'amateurs.
Il nous entend là, j'en suis sûre.
C'est sûr.
Eh bien, du coup, comme c'était comme une comédie, on va continuer.
Comédie horrifique, oui, voilà. Oui.
Claude, il me semble que tu as vu aussi une comédie dramatique, le film de Merzak Alouache,
oui,
première ligne.
Oui. Alors, ce film, c'est une comédie qui dit beaucoup de choses sur l'Algérie actuelle. Le pitch est très vite fait. C'est une famille modeste. On est chez des gens modestes qui décident d'aller à la plage et il faut se lever de bonne heure le matin pour être le plus près possible
de la mer.
De la mer et voir l'océan. Et c'est la Méditerranée d'ailleurs. Et il y a une autre famille qui arrive, qui connaît le plagiste, qui les place devant eux. Et ces deux familles vont se chamailler pendant tout le séjour sur la plage avec des vols de portables qui accusent telle famille. Bon. Alors, en fait, c'est un portrait de l'Algérie en très réduit sur une plage. Donc on voit en fait quels sont les maux de l'Algérie. Ça se termine au commissariat. Les familles se réconcilient. La famille qui était accusée d'avoir volé le portable, c'était pas celle-ci, c'était une autre personne. Mais ce qui, moi, ça fait déjà plusieurs fois que je vois des films comme ça sur l'Algérie, faits par des jeunes réalisateurs. Ce qui est dramatique, c'est que les jeunes, enfin, dans ce film-là, dans l'autre film que j'ai vu à Brive l'an passé, c'était la même chose, ne pensent qu'à une chose, c'est quitter ce pays. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne voient aucun avenir dans leur pays. La jeune fille qui a un avenir dit « je pars en Allemagne, je reste pas ici ». Reste en fait que ce pauvre type qui est un peu modeste, qui est, je ne sais plus quel métier il fait, mais pas carreleur ou chose comme ça, pas grand-chose, et lui, il va rester, bien évidemment.
Mais le réalisateur essaie de donner des raisons, des pistes.
Non, il ne donne pas de raisons, mais dans d'autres films que j'avais vus, qui étaient à peu près sur
c'est
le même...
C'est un constat.
Le même thème, il ne donne pas les raisons, pourquoi, mais on voit très bien que... Il n'y a pas d'avenir dans ce pays et que le seul avenir, c'est de partir ailleurs. Bon. Et que ce soit partir, pas forcément en France, hein, partir en Europe. Elle part en Allemagne. Et il y a aussi dans ce film quelque chose qui est extrêmement abordé avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. C'est les rapports entre les jeunes sur le plan sexuel et sur le plan de l'amour et comment ils arrivent à se détacher des familles. Donc c'est vraiment un petit film. Mais c'est un film sympathique et qui en dit beaucoup sur l'Algérie actuelle. Et tout ça avec humour, avec finesse, et ça passe très bien. Mais il n'y a pas d'espoir. Hein. Ça, c'est c'est pas le premier film algérien fait par des jeunes réalisateurs où le constat est le même, l'avenir n'est pas dans ce pays.
Oui, effectivement, c'est triste, c'est le constat.
Elle a bien chroniqué, Claude. Hein.
Ouais, je te félicite. Merci, Claude.
C'est pas un film difficile à chroniquer. On n'est pas chez La Poupée, par exemple.
Ok. Eh bien, non, après La Poupée, alors. Mais du coup, Gob et Claude, vous avez vu le même film, c'est La Femme 2. réalisé par David Roux, si vous voulez en parler.
Bah alors, oui, c'est, en plus c'est tout récent, c'est le dernier film que j'ai vu. Alors c'est un film vraiment intéressant parce que, alors il y a déjà, il faut quand même dire qu'il y a Mélanie Thierry, qui est absolument formidable, comme toujours, qui porte le film. Alors, elle joue le rôle d'une femme qui a épousé un fils de très bonne famille. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est l'histoire de l'effacement progressif d'une personne. C'est-à-dire, cette femme, elle est effacée par son mari, son entourage. Elle est assignée à un certain rôle qui est là, en l'occurrence, de s'occuper du père, du patriarche malade après le décès de la mère. Et elle se détache d'elle-même. Alors c'est fait à travers des petites scènes très justes psychologiquement, où à travers tout un ensemble de toutes petites choses, on voit à quel point ce personnage est petit à petit rabaissé, effacé. Et moi j'appellerais ça, ouais, l'histoire quelque part d'une désintégration psychologique. Et mais bon, ce personnage va finir par aller contre cet ordre social qui la rabaisse et la fait petit à petit s'effacer. Et moi, j'ai trouvé le film. Après, c'est un film très classique, voilà, très 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 bien écrit, très classique, porté par une très bonne interprétation, parce que il y a Mélanie Thierry, mais il y a aussi Caravaca, il y a Jérôme Deschamps des Chiens qui joue le rôle du patriarche. Les autres actrices sont très bonnes aussi. Enfin, voilà, c'est un film d'une très bonne tenue au niveau interprétation et écriture. Mais on sort avec en tête ce beau visage obstiné dans ses décisions finales de Mélanie Thierry, et on sort avec ça dans la tête.
Non, t'as tout dit, je n'ajouterai rien. Non, c'est le portrait, effectivement, d'un sale type, d'un ambitieux, d'un manipulateur, et on voit comment cette femme fait face à ce garçon. J'ajouterai une chose, c'est que le chef-op, il y a des couleurs, il y a une photographie assez exceptionnelle dans ce film. Notamment, il y a cet acteur belge, je suis en train de chercher son nom.
Jérémy Régnier,
qui devient l'amant de cette femme. Il y a des plans sur la forêt.
Oui, c'est
magnifique. J'ai regardé quel était le nom du chef-op, parce que c'est...
Non, mais c'est vrai que c'est très bien photographié.
C'est extrêmement bien photographié. Ouais. C'est un film très, très, très travaillé.
Ouais, donc ça vaut la peine de le voir au cinéma.
Ah oui, c'est
rien que pour la qualité cinématographique.
Ce qu'a dit Xavier, il a tout à fait raison. Il a fait la bonne chronique de cette femme qui au départ, on lui a destiné un rôle. Elle doit être, enfin, c'est dramatique. Hein,
Oui, ça doit être le cas réel pour beaucoup de femmes.
Dans ces milieux-là, je pense, oui.
Eh bien, avant une pause musicale, moi, je vais vous parler d'un film. C'est le dernier Gus Van Sant. Je crois que personne d'autre l'a vu.
J'aurais bien voulu le voir,
vu.
Mais les horaires nous ont pas forcément aidé. Mais je vais être tout oui parce que...
Mais c'est pas très simple.
Je voulais le voir, ouais. Celui-là.
On avait effectivement, il faut pas rater les ouais. séances quand on est disponible.
On va certainement y aller. Hein. C'est pas parce qu'on l'a pas vu là qu'on va pas le voir forcément.
Ah, mais...
On en reparlera.
Moi, c'est dans mes prévisions aussi.
Oui.
Ah, très bien. Je vais essayer de ne pas trop vous en dévoiler, mais pour tout vous donner envie. Et donc, c'est La corde au cou. C'est inspiré d'une histoire vraie. L'action se déroule en 1977 à Indianapolis. Et ouais, c'est un homme qui est ruiné, et qui est ruiné par une société de crédit. Et il décide de kidnapper le fils du directeur de l'agence. Qu'il accuse d'être à l'origine de son échec, de l'échec de son projet immobilier. Et il le kidnappe contre une rançon et contre surtout des excuses pour sa situation. C'est un événement qui, à l'époque, a été très médiatisé, avec des images filmées en direct de la prise d'otage dans la rue. Dispositif assez impressionnant aussi. Je ne vous en dis pas plus. vous le découvrirez. Mais effectivement, il y a beaucoup d'images qui ont circulé et ça a été une influence médiatique. Et en plus, ce sont des images que l'on découvre au générique de fin. Mmh. C'est comme ça donc qu'on voit qu'il y a des scènes qui nous paraissent hallucinantes, surréalistes. Et on se dit, mais oui, c'est vrai, en fait, ça a vraiment été dans ces conditions-là. Ça s'est vraiment passé. Et en fait, le fait d'avoir ces images aussi à la fin du générique, ça montre aussi que le dénouement, en fait, c'est lié aussi à l'implication de la télévision et de la radio. Dans l'image qui était donnée du kidnappeur à l'époque, et ça a vraiment eu une grosse influence. Et on est dans on est dans une mise en scène qui est assez classique, qui rejoue la réalité. Et ça, c'est peut-être ce qui me dérange peut-être un peu, parce que du coup, je trouve qu'il y a un problème de rythme à certains moments. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est comment il donne à la fois un regard empathique sur le fils du directeur qui est kidnappé. Et aussi en se positionnant du côté du kidnappeur. C'est très intéressant. Il casse ce fameux rêve américain d'avoir des projets, de pouvoir faire tout ce qu'on veut facilement aux États-Unis. Et ben non, c'est pas le cas. Et voilà, on voit que c'est important pour Gus Van Sant de montrer aussi ça, cet aspect-là de.
Moi, je pense que. Juste, j'ai pas vu le film, je peux juste que dire une chose, c'est que je pense qu'il a changé souvent de travail, de façon de travailler, Gus Van Sant, au cours de sa carrière. Et là, il suit, c'est une filiation, je pense, avec Harvey Milk, qui est un de ses films les plus récents, qui partait du même principe, c'est-à-dire une reconstitution des années 70. Là aussi, un fait divers. Là aussi, la volonté d'être le plus réaliste, en tout cas, dans la reconstitution d'époque, même au niveau des mœurs, au niveau des personnalités. Je pense que là, il est dans une même mouvance, faits divers connus et reconnus là-bas, aux États-Unis, peut-être pas en France. Mais en tout cas, Harvey Milk, c'était quand même l'assassinat d'un politicien gay qui revendiquait le mouvement près d'Ace Asbury, au début du mouvement dans les années 70 et qui se fait tuer par un autre pauvre type, en fait. Ouais, même principe, un peu, je trouve.
Et puis tu parlais de casser le rêve américain. Je pense que Gus Van Sant, il n'a cessé de faire ça. Hein.
Bah, bien sûr.
Si tu remontes à My Own Private Idaho, Elephant.
Oui, tout à fait. C'est son travail et son observation.
Oui, c'est une observation de l'Amérique.
Will Hunting aussi.
Toujours avec toujours avec un regard extrêmement critique
de la société américaine et des conséquences
et des conséquences des côtés néfastes de cette société.
Effectivement, et ça c'est intéressant comment il le montre et comment c'est. Alors il y a un problème de rythme au milieu du film, mais il y a une conclusion qui est hyper intéressante où on comprend. Beaucoup de choses et c'est là où j'ai beaucoup apprécié le film. Et qu'est-ce que je voulais dire parce que même s'il y a un problème de rythme, on le voit aussi parce que Gus Van Sant cherche aussi à redonner une certaine tension avec certaines scènes. Mais ça prend pas, ça part vite, ça tombe vite comme un flop. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu mon petit bémol. Mais effectivement, il est bien sur cette réalité de cette époque, les années 70. La photographie, les décors, les costumes, tout. On est vraiment dans cette époque. Et aussi la musique.
Bien sûr. Ouais.
Mais l'ambiance musicale est très intéressante.
C'est un réalisateur qui choisit bien ses bandes originales, c'est quand même lui. Hein.
Effectivement, et même dans les morceaux, on peut aussi comprendre certains aspects. Et on va écouter justement un des morceaux pour faire notre pause musicale. Parce que la musique a une place vraiment importante, elle participe à l'ambiance des années 70. Et j'ai l'impression que ce morceau donne aussi des éléments de compréhension. Et il s'agit du morceau de Gil Scott-Heron. Le titre c'est The Revolution Will Not Be Televised. La révolution n'est pas télévisée, mais ne sera pas télévisée, mais en anglais. C'est un morceau de 1971. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après, toujours sur Radio Campus Orléans.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter le morceau de Gil Scott Heron. Et donc, je suppose que vous avez retenu le titre du morceau The Revolution,
la révolution ne sera pas télévisée.
Ah, punaise.
C'était bien groovy, en tout cas.
Ouais, ça montre vraiment la bonne ambiance de cette époque et de ces revendications qui sont aussi encore d'actualité. Et pour ça, voilà, c'est hyper intéressant pour les personnes qui adorent la musique de cette époque. Rien que pour ça, allez voir le film. Donc, on continue avec nos chroniques de films. Et j'aimerais laisser la parole à Arnaud et Vincent. Allez, choisissez. Est-ce que vous voulez parler du pire ?
Oui, du pire.
Ah bah oui.
Comme ça, c'est fait. Le réveil de la momie.
Allez.
Ah mon Dieu.
Bon, ah oui.
Tu l'as vu ?
Non, mais non. Non, mais tu n'iras pas le voir, je pense.
J'attendais que vous m'en parliez, les gars. Bon. Et voilà. Mm-hmm.
Alors, déjà, la momie comme thématique au cinéma. C'est pas souvent qu'elle se présente, la momie. On pense tous à Karloff, on pense tous à l'histoire des anciens films Hammer, etc. Alors, on en est très, très loin, bien sûr, puisque...
C'est marrant, je m'en doutais un peu.
Là, à la signature, aux réalisations, c'est Lee Cronin. Alors, Lee Cronin, c'est un émergent, on va dire. Il ne fait pas très longtemps qu'il commence à faire des films d'horreur, mais il s'est fait repérer, surtout sur l'adaptation d'un Evil Dead Rise, qui est sorti,
dernier, ouais.
qui était... très affirmé au point de vue à la fois...
Qui était très gore.
Qui était très gore, voilà, c'est très
oui, relevé. Enfin, qui était plutôt une bonne surprise par rapport à ce qui s'était fait précédemment, voilà. Comme reboot, remake ou...
Voilà, sequel, il avait le mérite d'avoir redynamisé la franchise, on va dire, et d'avoir fait un film qui se tenait, lui, ce film-là. Maintenant, il revient avec la thématique momie, qui n'est qu'un prétexte, parce que on va en détailler plus. Mais bon, franchement, c'est pas du tout à la hauteur. En tout cas, le thème de la momie, en tout cas. Et après, bah, il refait ce qu'il a fait finalement sur son précédent film, quasiment la même méthode, c'est-à-dire une famille qui va exploser par l'acte d'un truc démoniaque, finalement, qui va faire, qui se venge. En plus, le truc démoniaque s'amuse à comment dire, à être cruel entre les membres de la famille pour que voilà, ils puissent pas se supporter les uns les autres, etc. Donc ça, c'est le noyau central de la famille explose. Et à partir de là, bah, on a une histoire. Alors, il y a quand même une base fantastique, hein, c'est-à-dire en gros, alors, il y a énormément de points communs, et ça, c'est le premier problème du film, c'est les citations des grands classiques. Alors là, c'est devenu insupportable à quel point, voilà, on peut pas faire un film d'horreur aujourd'hui sans citer soit l'Exorciste, soit La Malédiction, soit j'en passe des meilleurs. Et là, la citation Exorciste, elle est quasiment en boulevard, en autoroute, puisque le film démarre sur toute une introduction qui se passe
en Égypte,
et ça rappelle beaucoup l'Irak qui ouvrait l'Exorciste, comme le bouquin d'ailleurs de Blatty à l'époque, pour après se situer à Washington. Bah, là, pareil, on a une ouverture qui se passe en Afrique, on va dire en Égypte, et après en la région d'Amérique. Albuquerque, mais c'est donc le Nouveau-Mexique, pardon.
Oui.
Donc on reste dans une ambiance un peu aride quand même. Et en gros, bah, c'est l'histoire d'une gamine, en fait, donc c'est une famille qui pour situer très vite l'histoire. Et ils perdent une enfant, enfin leur enfant se fait kidnapper.
Oui, enfin quand ils sont en Égypte, je me souviens même plus quel boulot ils sont censés faire là-bas.
Lui est journaliste, le mari est journaliste.
C'est ça.
Et sa femme, elle est infirmière dans un dispensaire, par exemple. Et leur gamine, elle disparaît, elle a été abductée, kidnappée par une femme, en fait, dont on ne sait pas grand-chose. Et puis, pendant 8 ans, ils font le deuil de leur enfant, en fait. On ne sait pas où elle tourne. Elle n'a pas été retrouvée par la police égyptienne. Donc, ils repartent au pays et puis ils se font une raison que leur fille est morte. Mais en fait, non, elle n'est pas morte, elle est enrubannée. Et elle est retrouvée, en fait, dans un sarcophage. Et elle est transférée, donc, en état de catatonie. Et ils sont, alors là, c'est n'importe nawak, mais bon, c'est pas grave. Elle est mise dans une chambre, dans sa chambre, avec 8 ans d'écart, 8 ans de retard. Elle a la même âge, c'est comme si elle n'avait pas bougé, en fait. Son âge est quasiment le même, sauf qu'elle est vraiment très.
Sur l'âge, je sais plus si elle a bougé un petit peu. Enfin, entre-temps, ils lui ont fait une petite sœur.
Voilà, oui.
En fait, on continue de raconter l'histoire.
Non, ça sert à rien.
Pas...
Oui, voilà. Ce qu'on va dire juste, on va dire juste que c'est mauvais. qu'il y a tous c'est... les.
Allons à l'essentiel.
Voilà.
Bah, c'est un film raté. Ouais. Voilà. Aïe. C'est-à-dire que moi, le côté momie, etc., j'étais plutôt pour.
Oui, la rigueur.
Il y a d'ailleurs, au niveau effet de maquillage, etc., de posture.
Ça y est.
Des choses assez réussies. Le problème, c'est que le film ne fait pas grand-chose de ce qu'il promet ou avance. Quand il vous donne un fusil de Tchekhov, bah, il se tire une balle dans le pied avec.
Oui.
Voilà.
Non, mais il y a ça coche tous les trucs insupportables horripilants du moment. C'est-à-dire les sursauts, les jumpscares, la musique trop forte, la photographie est la seule chose retenable. C'est la surenchère. La surenchère de tout et de tout. C'est-à-dire on excède de tout. Des gros plans, des zooms, des trucs sur le détail crade, gore. Il faut qu'on fasse des sursauts dans la salle. Et pour rien, gratos.
Mais c'est fait exprès.
Oui, c'est fait exprès. C'est un roller coaster. C'est un film montagne russe. Mais non, c'est pas que ça.
Le problème, c'est que. On aimerait avoir aussi une histoire.
Il n'y a pas d'histoire.
Qu'il y a des choses qui sont amorcées, qui pouvaient être intéressantes.
Ils les zappent, ils les oublient pour faire ça.
Et ils n'en font rien.
Donc c'est vraiment insupportable. Voilà.
Okay, donc n'y allez surtout pas.
Non, vraiment. Pourtant, ça a été vendu avec gros effets, etc. Mais en fait, il faut se méfier de ça.
Ils savent faire.
Voilà, c'est du. Voilà, exactement.
Mais j'avais tellement prévu tout ça. Mon Dieu.
Ah, bien sûr.
Bravo les gars, vous m'avez confirmé.
T'as gagné
dans
du
mes
temps.
Soupçons.
On va au front pour toi.
2h14, tu as gagné.
Voilà. On va au front pour toi.
Merci de cette économie.
On a pris la mitraille pour toi. Voilà.
Eh bien, Gob, toi, tu as vu un autre film, c'est Juste une illusion, de Olivier Nakache et Eric Toledano.
Ah, t'as vu le film du moment, enfin, qui est 70 ans.
Je pense que c'est le film du moment.
Non, mais on en parle pas mal.
C'est les réalisateurs de Thérapie, oui. C'est ça, entre autres.
Voilà, et les réalisateurs du méga carton d'Intouchable, et du Sens de la fête, et d'un certain nombre de comédies françaises très réussies. Alors, je vais te dire d'emblée que pour moi, je pense que c'est leur meilleur film
quand même.
À ce jour. Moi, j'ai marché. L'interprétation est impeccable. Louis Garrel, qui s'est fait un look des années 70, super. Camille Cotin, génial. Lautin, dans un rôle un peu plus effacé que d'habitude, dans un rôle de concierge, un peu beauf, mais super gentil, épatant aussi. C'est hyper bien écrit. Il y a une reconstitution des années 80. Alors forcément, ils te prennent par les sentiments. Moi, qui étais jeune dans les années 80, forcément, je marche à tout. Parce que tout est hyper juste. De la chambre d'ado au concert des racismes à la fin, tout fonctionne pour un mec comme moi qui a été jeune à cette époque-là. Tout fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes ces relations familiales qui sont très justes. Il y a, une dynamique de tout à la fois de drôlerie et d'émotion qui fonctionne. Et puis, il y a des scènes, il y a deux ou trois scènes hilarantes qui, franchement, si tu te marres pas à deux ou trois scènes du film de bout en bout, c'est que tu riras jamais à aucun film. Voilà. Et voilà, c'est une mécanique, c'est un film grand public, tu passes deux heures hyper agréables. Tu t'es ému, tu rigoles, et puis ton petit cœur de jeune homme des années 80 s'emballe pour un certain nombre de choses.
Merci. Juste une illusion donc d'Olivier Nakache et Eric Toledano. On passe au film suivant. On est trois à avoir vu La fille du Combini. On peut du coup en parler, si vous voulez bien, de la réalisatrice japonaise de Ishibashi. Ishibashi. Décidément, ce soir,
elle nous pardonnera, Céline.
J'arrive pas à prononcer Céline.
Elle s'est fait déjà assez beaucoup depuis deux heures.
La fille du Combini, c'est une jeune femme qui a quitté son emploi de commercial dans la publicité pour un job alimentaire dans un Combini, les fameux Combini au Japon. Et je commence, si vous voulez bien. Donc la réalisatrice, je trouve, elle dénonce l'obsession d'une société pour la réussite, la pression du monde du travail et la honte de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est très visible et très présent dans la société japonaise. Et tout ça dans une mise en scène extrêmement simple. C'est très très simple. Elle donne le temps aux personnages de parler. Enfin, les dialogues prennent le temps de dire les choses. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de moments de respiration, que ce soit dans les dialogues, mais aussi dans les scènes, les paysages ou des plans qui s'arrêtent alors que les personnages sont sortis du cadre. Donc ça, voilà, c'est un moment de paix, de plénitude. C'est très agréable, c'est très très tranquille. Mais ce qu'elle montre aussi, c'est des relations, les relations amicales, qui permettent au personnage principal de s'accepter, de trouver sa voie, et montre que ce qui est important, c'est de s'écouter, de trouver un sens à sa vie. C'est un film mignon, qui dénonce des choses graves. disons pas non plus dans l'effet coloré, mais plutôt dans l'effet assez paisible. Et malgré que ce qu'elle dénonce, la maltraitance des employés salariés est aussi une évidence au Japon, mais aussi comme beaucoup d'endroits, malheureusement, dans le milieu du travail. Je vous laisse la parole.
Écoute, moi, je te rejoins alors à 100% sur la plénitude. Moi, c'est bon, je chante assez souvent les louanges de ce cinéma asiatique et notamment du cinéma japonais que j'adore. Moi, c'est vrai, c'est des films. Moi, je rentre dans ces films en sachant que je vais avoir un vrai moment de poésie et d'apaisement, effectivement, comme tu disais. Et là, c'est encore le cas. Alors, c'est vrai, c'est un film extrêmement minimaliste, extrêmement simple, mais pas simpliste. Et effectivement, moi, je trouve. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, tu as toute cette histoire sur un ton assez ténu, et finalement, tu te rends compte que ce ton ténu, il est là pour mettre en valeur deux séquences essentielles pour moi, et qui sont deux séquences où l'émotion est à son pic. C'est quand elle parle à sa mère au téléphone, et où elle lui avoue enfin sa situation, et cette très longue scène avec son amie, cette amie femme, et où elle lui révèle son passé. Et ces deux scènes, elles sont absolument formidables, et là, il y a un vrai... Et tu as l'impression que tout le film est là pour mettre ces deux moments d'intense émotion en valeur. Et moi, je suis sorti avec ça dans la tête de ce film, qui, par ailleurs, pour moi, est un très joli film, et... qui va rejoindre pour moi cette longue liste de films japonais qui, moi, me rendent tellement heureux et tellement apaisé.
Claude, tu en as pensé quoi ?
Je suis d'accord avec vous. Cet film, je reprends les phrases de Xavier, le mot Xavier, c'est un film simple, mais qui n'est pas simpliste. Ce n'est pas un film gentil. C'est un film qui caractérise très bien les relations... humaine dans le Japon moderne et sur les aspirations des jeunes. Et surtout, ce qui est mis en vigueur, c'est ces relations entre individus. Et c'est dit d'une façon... on pourrait faire ça avec des esclaves. Non, c'est dit d'une façon très simple. Et on peut dire des choses importantes en étant simple et sans crier.
Ouais,
et c'est exactement ce film.
Mais tout à fait, oui.
Tout à fait. Donc voilà, La fille du Konbini de Ishibashi. Donc n'hésitez pas à y aller. Il est encore à l'affiche.
Ah ben ça, c'est très bien.
On continue. Il nous reste encore un peu de temps. Eh bien, le film que vous avez plus apprécié, Arnaud et Vincent, du coup, c'est
oui.
Bagarre.
Oui. Oui.
Okay, de oui. Julien Royal, qui est une comédie.
On l'a vu hier.
C'est une comédie, oui, effectivement. Comédie bien... Comment dire, bah, en fait, bien foutu. Déjà, peut-être commencer par ça. Donc, c'est un film français, comme le nom du réalisateur l'indique. Mais enfin, bon, peu importe. Porté par des acteurs... Enfin, il y a un acteur en particulier plutôt bon, Nassib Lies, que je ne connaissais pas du tout. Anaïd Rosam, que je ne connaissais pas du tout, mais... que je découvre, j'ai découvert plein de monde là en voyant ce film là. Pour le pitcher, ça va être un peu compliqué, c'est-à-dire que on a notre ami Nassim Lies qui joue un type qui est
plagiste au début en tout cas.
Oui, plagiste.
Alors, enfin,
il est serveur sur un restaurant de plage et il est surtout très naïf, voire très bête, mais très costaud. Et le principe du film, en fait, c'est l'ubérisation de la bagarre. À savoir que tu as une altercation avec quelqu'un, tu vas téléphoner à une boîte qui va t'envoyer, moyennant bien sûr rémunération, un costaud pour casser la gueule à celui à qui tu as envie de casser la gueule. Donc partant de ce principe complètement surréaliste, loufoque... on va avoir des scènes complètement hallucinantes, hallucinées, et avec une comédie qui, contrairement à beaucoup de comédies françaises, moi, de ces derniers temps, je suis assez remonté, parce qu'il y a une fainéantise dans la réalisation, dans l'histoire, l'écriture des personnages, etc., qui ici ne se retrouve pas, au contraire, c'est très travaillé, c'est... Alors après, il faut aimer les films de bagarre, etc. Hein. Mais... Ouais. Vas-y, continue.
En fait, tout ça pour dire que, par rapport à Onakash Toledano, c'est très drôle, parce que finalement, autant on est sur un film, on va dire, qui va gagner tout public avec un réminiscence des années 80, alors là, on est sur une comédie très actuelle. Moi, c'est ça que je recherche un peu parfois, c'est que, pour le coup, on ne va pas aller sur la nostalgie, on va être sur l'air du temps, du moment. Et c'est une comédie qui est très énergique. Alors là, ça dure 1h30, mais on a ri, je crois, non-stop pendant 1h27. Il n'y a que 2-3 minutes plus calme. C'est un ouragan de délire, de choses folles et loufoques, très bien écrit, très justement écrit, mais avec un style d'aujourd'hui. Donc c'est très à l'ère actuelle, donc on accroche ou pas du tout. C'est réalisé par Julien, soit Hollande, soit Royal. Vous avez donc deviné sa parenté. C'est le fils du président, François Hollande. On n'imagine pas qu'il puisse avoir un gamin qui, après, quand il se met à faire de la réalisation, fait des trucs comme ça. Franchement, ça n'a... que peu de références pour nous. On a découvert vraiment un univers à part entière. Il a déjà fait deux films avant. C'est son troisième.
Si on peut vous donner une idée, je pense qu'il doit beaucoup apprécier
le cinéma japonais,
Crazy Kung Fu,
voilà. Les comédies coréennes, voilà, en fait. Il y a une grosse énergie. Et en plus, bien évidemment, même si ça s'appelle Bagarre, bien évidemment, ça dénonce le machisme, la colère excessive, la violence, avec un personnage et d'autres personnages qui sont très tendres. En fait, c'est une comédie extrêmement tendre, moi, j'ai trouvé. Avec beaucoup d'humour, ça c'est clair, et beaucoup de sensibilité. Voilà.
Troisième film déjà, d'accord. Bon bah très bien, ça donne envie de le découvrir.
Et personne n'en parle, c'est bien dommage parce que c'est une rareté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de bande annonce,
tout ça. Effectivement.
Il est discrètement sorti.
C'est en écoutant France Culture que j'ai découvert ce titre.
Ils ont défendu le film. Ouais,
ok. Donc, voilà. La suite, eh bien, Gob, toi, tu as vu Plus fort que moi, si tu veux en parler,
oui,
donc bah, c'est de Kirk Jones.
Ça me tient à cœur de parler de ce film parce que moi, c'est mon gros coup de cœur de ce dernier mois. C'est un film formidable. Plus fort que moi, c'est vraiment un film formidable. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui a atteint du syndrome de la Tourette dès son enfance. Alors... Moi, je trouve ce film formidable parce que ça parle d'un type qui va pendant longtemps souffrir socialement, intimement, dans ses relations, dans sa vie de tous les jours, qui va vivre un drame quotidien. Et ce film, il nous montre ce drame quotidien avec un humour, avec ils arrivent à mettre une juste dose et d'humour et d'émotion en permanence. C'est un acteur qui joue le rôle de ce type qui existe vraiment, puisqu'on le voit en vrai à la fin du film, et qui a écrit lui-même le scénario, qui raconte son histoire. Et l'acteur, franchement, est formidable. Il en fait ni trop ni pas assez. C'est extrêmement émouvant. Je t'assure qu'il y a des vers la fin du film, il y a des moments, à part si tu as une pierre à la place du cœur, tu peux pas retenir tes larmes, tellement c'est fort et émouvant. Et tout le film est sur ce ton. Alors on est par moments, ça se passe en Écosse, dans une banlieue un petit peu, bon, on pense à Ken Loach, mais le meilleur de Ken Loach, c'est-à-dire Ken Loach quand il fait des films tout à la fois émouvants et drôles, parce qu'il a aussi souvent fait ça. Et les personnages sont tous extrêmement justes, les acteurs sont tous au diapason. Franchement, c'est un super film. Et moi, je suis heureux parce que ce film, il a démarré avec très peu de publicité. Toi, tu parlais du film dont on parlait avant, avec très peu de publicité. Et c'est un film qui fonctionne au bouche à oreille, qui est en train de gagner un public, qui gagne en succès. Là, j'ai vu qu'il rajoutait des séances et au Carme et au Pâté. Et franchement, moi, je suis très heureux du succès de ce film parce que c'est un film qui m'a fait rire, qui m'a bouleversé. Et j'en suis sorti tout à la fois extrêmement ému et extrêmement ragaillardi parce que c'est une belle leçon de vie aussi, ce film. Ce type, il te donne de l'envie, il te donne du courage pour tout ce qui peut être compliqué, difficile dans la vie. Et c'est un type qui a mené son combat contre lui-même, contre les autres aussi, et qui a fini par ouvrir des centres pour les gens atteints du même syndrome que lui, qui les a fait se rencontrer, qui a mis toute une qui finit par être décoré par la reine. Franchement, c'est s'il y a un film à voir, je pense, en ce moment, c'est celui-là. Donc allez-y.
Plus fort que moi de Kirk Jones. Merci, Gob. Claude, alors, le film difficile, La poupée, vas réussir à en parler en 2 minutes ?
Je vais essayer en quelques minutes. Bon, c'est un film qui, beaucoup déçu.
Un film de Sophie Beaulieu.
Sophie Beaulieu, qui a fait La Fémis et qui a fait notamment Scénario à La Fémis. Bon. Elle a une idée que je trouve extrêmement intéressante au départ. C'est l'histoire d'un garçon qui est joué par Vincent McCain, qui a une poupée chez lui. Il vit avec une poupée. Et à ses collègues de travail, il dit qu'il est très amoureux d'une femme qui s'appelle Audrey. Je dis, bon, l'idée est bonne. Ensuite, la poupée se met à parler. Ça le choque, ce truc, mais la poupée se met à vivre. Bon. La poupée, elle se met à vivre. Si tu fais un scénario, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est comparer l'attitude du garçon quand il était manipulateur, quand il faisait ce qu'il voulait, puisque c'était sa poupée, c'était son jouet, il a manipulé, et maintenant la poupée se met à parler et à vivre normalement. Là, elle rencontre ses parents. Bon, alors, elle en fait une affaire sociétale où, en découvrant ses parents...
Est-ce que la poupée serait Cécile de France ?
Non, c'est pas Cécile de France.
Ah, la donc poupée, on m'a trompé.
Donc, ce n'est pas Cécile de France.
On m'a mal vendu le film.
Et alors, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir, justement, l'évolution de ce garçon qui était... qui peut être très macho avec sa poupée, qui va être en prise avec une femme qui parle, qui va pas se laisser faire. C'était vachement intéressant, je veux dire, faire ça. Non, elle fait pas ça, et elle le fait plus sur le plan de la société, où la poupée va découvrir sa famille et elle va poser des questions un peu gênantes à la famille. Bon, d'accord, elle gêne la société, mais c'est pas très important. Et arrive Cécile de France, et là, dont Mike Caine va tomber amoureux, je sais pas trop ce qu'elle vient faire, enfin... Elle joue très bien, Cécile de France, mais je ne sais pas dans le scénario ce qu'elle vient faire. Qu'est-ce qu'elle veut comparer ? Alors qu'il y avait un moyen extrêmement intéressant de comparer l'attitude d'un mec face à un jouet, et puis le jouet se met à parler, et c'est plus pareil. Mmh. Et j'ai une copine qui m'a dit, moi j'ai lu les critiques, j'ai vu, comment s'appelle ce film américain qui s'appelait ? J'ai pas noté qui est sur le même sujet.
Ouais, mais il y en avait plusieurs. Ouais,
oui, il y en a. Oui. Il y a aussi un film de Luis Garcia Berlanga qui s'appelle Grandeur Nature des années 70.
Mais il y a Companion qui est sorti il y a pas longtemps, qui était très bien.
Et moi, je dis que c'est un film qui n'est pas maîtrisé.
Ouais.
Pas du tout. Ça part dans tous les sens.
Exact. Mmh. Monique de Dupontel.
Oui. Il y avait Monique de Dupontel. Il y a plus longtemps, c'est loin.
Oui, bien sûr. C'est.